106.3, fréquence par le pluriel, l'émission Monde d'emploi, l'émission des chômeurs et des précaires, avec ce soir des journalistes du PIAF et des membres de ATTAC.
Et notre invité du soir est Yacine Iclef, syndiqué à Sud Éducation Paris, et qui vient nous parler d'un conflit, d'une lutte plutôt gagnée dans les locaux universitaires de la faculté de Jussieu, entre des salariés d'une entreprise de sous-traitante de techniciens de surface de nettoyage des locaux universitaires. C'est un sujet très intéressant qui va nous amener jusqu'aux confins de cette notion, finalement, à quoi ça sert la sous-traitance, finalement. Mais nous attaquons évidemment avec l'actualité, et l'actualité commence par les chroniques de Jean-Marc. Et ta première chronique, Jean-Marc, ça va nous parler de la Ve République, parce que cette Ve République... T'as une formule pour nous la décrire.
C'est plus réappérable, faut en changer.
Ben oui, ma petite dame.
Qui n'a pas, avec terreur, entendu le jugement d'un réparateur de lave-linge ou d'un garagiste, vous annonçant benoîtement que, vu l'âge de l'appareil, le manque de pièces et le prix de la réparation, il vaut mieux aller en acheter une neuve. De toutes les façons, la vieille était dépassée, on fait beaucoup mieux maintenant. Bref, c'est un peu ce que je vais faire à ce soir à propos de la Ve République avec ce petit résumé. À la base, en 1958, le modèle n'était déjà pas génial et avait provoqué d'énormes critiques. Hélas, balayé par un référendum qui approuvait le retour du général plus que la Constitution elle-même, finalement. En 1962, 4 ans plus tard, deuxième référendum venant renforcer à fond la fonction présidentielle grâce au passage au suffrage universel direct pour l'élection du président. Énorme danger, bien évidemment. Croyez-vous, par exemple, qu'un Macron eût été élu par les deux assemblées ? Certainement pas. Pourtant, il a bien été élu au suffrage universel direct, par hasard et par effraction, comme il l'a dit lui-même. Sous VGE, en 1976, la règle des 500 signatures vient limiter drastiquement l'accès de candidats indépendants au suffrage présidentiel. Auparavant, il suffisait de 100, ce qui était beaucoup plus simple et qui éliminait beaucoup moins de candidats a priori. Le référendum de 2000, proposé par Jacques Chirac avec le passage au quinquennat, puis l'inversion du calendrier, faisant passer les élections législatives après la présidentielle, renforce encore la toute-puissance présidentielle et la subordination servile d'une majorité plus godillot que jamais à l'Assemblée. Toutes ces évolutions ont donc graduellement dégradé la démocratie en renforçant démesurément les fonctions du président et en rabaissant toujours plus le rôle du Parlement. Le Sénat, de toute façon, dès 1958, n'avait pas vraiment son mot à dire, puisqu'il ne pouvait jamais, il ne peut toujours pas, avoir le dernier mot. L'Assemblée, aujourd'hui, n'est plus qu'une pantomime de démocratie, torpillée par l'évolution des institutions, comme par une pratique de plus en plus autoritaire et méprisante de l'exécutif. Pour contrer tout cela, il lui fallut des partis forts. Or, au moment où on a besoin de partis forts, tous les partis se sont écroulés pour différentes raisons, assez légitimes, il faut bien le dire. Et deuxième chose, il aurait fallu une presse forte et indépendante. Au lieu de quoi, nous avons une presse qui est aux ordres de quelques capitalistes bien connus, qui, eux, ont tout intérêt à la faiblesse de la République, puisque cette faiblesse de la République leur permet de s'en mettre plein les fouilles sans vergogne. Cerise sur ce terrible chemin de croix politico-institutionnel, le Covid. Le Covid est venu parasiter la vie politique, en France comme ailleurs, et accentuer encore la baisse de la participation, une baisse catastrophique aux différentes élections, les municipales et les régionales ayant été particulièrement ridicules, avec un taux de participation qui délégitime toute élection et tout élu, donc à la suite de ces élections complètement ridicules et torpillées. Avec ce Covid, la Macronie pourrait parvenir à empêcher également tout débat présidentiel en 2022. C'est peut-être le fin mot de l'histoire de ce pass sanitaire et du débat assez verrouillé qu'il y a eu à l'Assemblée nationale. Pourquoi continuer le pass sanitaire jusqu'en juillet ? pour que le pouvoir ait les pleins pouvoirs, justement, mais aussi peut-être pour se laisser une porte de sortie, si les sondages n'étaient pas aussi bons qu'il l'espère, pour aller vers la boîte de Pandore du vote électronique, avec son lot de fraudes possibles, de bugs et autres joyeusetés, qu'on a déjà vu à de nombreuses reprises dans les élections américaines, qui nous ont bien fait rigoler quand il s'agissait de George Bush, mais qui nous ferait moins rigoler si ça arrivait en France. En bref, il serait vraiment plus que temps de changer de république si nous ne voulons pas nous réveiller dans un monde tenant plus de Brésil ou de 1984 que de la démocratie idéale.
Et on enchaîne avec les petites brèves de Jean-Marc. Et la première petite brève, tu repars sur le sujet que tu viens de nous évoquer, le ridicule des signatures.
Alors, oui, c'est assez fascinant. Quand on regarde aujourd'hui, on en est à 31 ou 32 candidats potentiels. Sur les 31 ou 32 candidats potentiels, on n'est pas tout à fait sûr qu'il pourrait y en avoir 10 qui réunissent les 500 signatures. Déjà, c'est un problème. Deuxième problème, c'est de voir la ventilation de ceux qui sont sûrs de l'avoir, d'avoir les signatures, et ceux qui pourraient en être éliminés. Dans ceux qui sont sûrs ou presque d'avoir les signatures, nous avons par exemple le bien connu Fabien Roussel, connu d'à peu près 10 000 personnes en France, pour le PCF, qui est sûr d'avoir les 500 signatures grâce aux résidus du réseau Parti communiste français. De la même façon, Anne Hidalgo, avec son crédit absolument faramineux dans les sondages et dans l'opinion publique, risque fortement d'avoir les 500 signatures sans aucun problème, vu le réseau d'élus du Parti socialiste. Pourtant, si on cumule les deux pourraient n'avoir que 10% en tout cumulé PS-PC. Donc, est-ce qu'il est logique que ces deux-là n'aient aucun problème pour réunir les signatures, alors qu'à l'inverse, Mélenchon, qui était interrogé il y a quelques jours par un journaliste sur la question des signatures, disait qu'il en avait à peu près la moitié, qu'il pensait y arriver, mais que c'était pas sûr. Que c'était pas sûr, parce que justement, d'habitude, il bénéficiait du réseau PC, mais comme le PC a décidé d'avoir son pantin aux élections, ben, il est pas sûr d'avoir ses signatures. Or, Mélenchon a quand même représenté plusieurs millions de voix, il a quand même été à 19% à la dernière présidentielle, et il pourrait être éliminé par cette règle des signatures.
Après cette brève, pas si brève, on enchaîne sur la présidentielle toujours. On écoute maintenant ce que Montebourg a envie de se faire demain, c'est un...
Harakiri. Montebourg, qui avait déjà bien du mal à commencer sa remontada, eh bien sa candidature remontadesque a fait une descentada en piqué avec ses déclarations piquées à Marine Le Pen sur le blocage de l'argent des immigrés pour punir les pays qui ne donnent pas les autorisations consulaires pour expulser les gens étrangers condamnés en France. Bye bye Arnaud.
On enchaîne sur les candidats préférés de Jean-Marc à la présidentielle. Après, il y a Hidalgo qui est allé faire un tour à Colombey, les deux églises.
Ah oui, alors Hidalgo, elle est vraiment, vraiment très, très mal. La preuve, c'est qu'elle est allée le 9 novembre à Colombey, les deux églises, entre deux candidats de droite, d'extrême droite ou d'extrême-extrême droite, pour se recueillir sur la tombe du général de Gaulle, qui était un grand socialiste, comme chacun sait. Donc, allez, on peut peut-être dire bye-bye, Anne.
Et pas, c'est un Lionel qui avait fait quelque chose en même genre. Ah, nous arrivons à la brève préférée de Gaël. C'est la 25e, je crois, de brève Covid.
Ou 26, je ne sais plus. Ouais,
mais... on n'est plus à un mort près. Hein,
c'est ça. Alors, cette grippe est vraiment très pratique. Et de confinement en restriction, en passant par le pass, elle aura servi à renforcer les régimes autoritaires et affaiblir les démocraties pour le plus grand bonheur des capitalistes, dirigeants comme actionnaires qui se sont moins frais et entendent bien continuer. Il ne faut cependant pas désespérer pour autant. Et c'est pourquoi je me permets de soumettre à ces messieurs un projet efficace, simple, qui fera économiser du temps et de l'argent à tout le monde. Je propose donc de rendre le vaccin anti-Covid obligatoire pour tous, depuis un an jusqu'à 112 ans, tous les 6 mois, définitivement. Pour améliorer le système, je propose que les comptes en banque des citoyens soient débités directement par Pfizer. Et pour faire des économies, que le conseil d'administration de Pfizer nomme des délégués pour remplacer les ministres dans les différents pays, ça ira beaucoup plus vite. Une loi unique votée en procédure d'urgence imposera ces mesures. C'est logique et ça va vite, c'est efficace. Tout cela vous semble délirant? Attendez 6 mois, ça ne sera peut-être pas tant que ça.
Allez, on va finir par une actualité plus internationale, celle-là, vu qu'il y a eu la mort. C'est une petite brève dans les journaux, finalement, de la mort du président De Klerk, président d'Afrique du Sud.
Oui, et pourtant, c'est pas n'importe qui, De Klerk, c'est lui qui a mis fin à l'apartheid, donc en ouvrant le dialogue avec l'ANC, en faisant sortir Nelson Mandela de prison, et finalement, il a réussi à interrompre l'apartheid qui durait depuis 1948 au début des années 90, ce qui a donné la transition vers la présidence de Nelson Mandela et le passage donc à l'ANC tout puissant en Afrique du Sud. Pour cela, ils ont eu le prix Nobel de la paix, de Klerk et Mandela conjointement, et de Klerk s'est progressivement retiré de la vie publique. Voilà, et il est mort cette semaine.
Et tu voulais nous en parler, parce que c'est quand même un personnage historique qui est passé un peu sous le radar des médias.
Oui, c'est dommage, parce que c'est quand même un événement majeur du XXe siècle, et on n'en a pas parlé, on a préféré faire semblant de regarder la campagne présidentielle du président à la télé, ou regarder les pitres qui sont allés à Colombelles et Deux Églises, alors que finalement, cette actualité-là était plus intéressante, nettement.
Alors une dernière petite brève, parce que tu as réussi à trouver un petit fait d'actualité internationale qui arrive à montrer à quel point on peut être dictateur, sexiste, antidémocratique, abject, en une seule, et de montrer que le pouvoir des médias et de la pression internationale n'a aucun impact sur un grand pays qui est la Chine.
Eh oui, il se trouve qu'il y a une joueuse de tennis qui a quand même monté dans le top 20 mondial il y a quelques années, qui a déclaré dans une interview qu'elle avait été donc violée à plusieurs reprises par un ancien vice-premier ministre chinois qui s'occupait de sport à l'époque. Il s'en occupait de très près, visiblement. Et le problème, c'est que non seulement ce monsieur n'a pas été inquiété, visiblement, mais la joueuse chinoise en question a disparu des écrans radars depuis une semaine. Personne n'a plus de nouvelles d'elle, y compris ses coéquipières de l'équipe de Chine, et la plupart des joueuses qui l'avaient côtoyée, qui avaient ses coordonnées, ne peuvent plus la joindre. Beau bilan démocratique chinois.
On fait une petite pause comme de respiration après une telle nouvelle. Alors on enchaîne sur une autre actualité, celle-ci d'Amérique du Sud, où Gaël va nous parler d'événements anti-écologiques en Amérique du Sud. Et le titre de cette chronique m'a laissé de surprise, je suis resté. Ça s'appelle, Gaël,
Cop mon cul. Alors, connaissez-vous la montagne d'or? Rien à voir avec Estebanésia, c'est un projet de mine d'or en Guyane, sur un site de 10 km² entre deux réserves forestières intégrales qui produiraient 6,7 tonnes d'or par an pendant au moins 12 ans. La compagnie Montagne d'or, c'est une co-entreprise entre le Canadien Orea Mining et le Britannique Nordgold, qui lui-même est contrôlé par deux holdings russes, qui sont des propriétés de la famille de Alexei Mordashov, une des plus grosses fortunes de Russie. En 2015, le projet a été vivement soutenu par le ministre de l'économie, un certain Emmanuel Macron, et par les décideurs politiques locaux, qui promettaient plusieurs milliers d'emplois pour la Guyane et des centaines de millions d'euros de recettes fiscales. Mais dès 2016, les indigènes ont pris position contre le projet. Avec le soutien de grandes organisations de défense des droits humains et de l'environnement, ils ont fait des recours. Et malgré le verdissement du projet, la Commission nationale du débat public et les ministres successifs de l'environnement ont émis de grosses réserves, y compris François de Rugy, c'est dire. Alors, au fil des ans, le projet est devenu un repoussoir. L'extraction aurifère, c'est en effet une calamité écologique, notamment à cause de l'utilisation de cyanure et de mercure, sans compter toutes les autres perturbations sur le milieu naturel, et tout ça peut impacter violemment les communautés indigènes. Donc finalement, poussé par la mobilisation citoyenne, que ce soit en Guyane ou en métropole, le gouvernement a décidé, au printemps 2019, de ne pas renouveler la concession minière sur laquelle est envisagé le projet de la Montagne d'Or. La compagnie a donc déposé un recours devant le tribunal administratif de Cayenne en février 2019. Il a gagné ce recours. L'État a fait appel et la compagnie a encore gagné devant la cour d'appel administrative en juillet 2021. Bruno Le Maire a donc annoncé le 24 septembre qu'il avait saisi le Conseil d'État, qui est l'instance ultime pour trancher définitivement ce différend. Alors sans entrer dans les détails juridico-administratifs, en fait l'État a perdu surtout parce qu'il n'a pas suivi la bonne procédure pour bloquer le projet de mine, s'il faut faire la différence entre le projet industriel et la concession elle-même. Mais ce n'est pas tout. En 1989, la France et l'URSS avaient signé un traité bilatéral sur, je cite, « l'encouragement et la protection réciproque des investissements ». Ce traité était motivé par le fait que l'URSS s'ouvrait au marché, ce qui créait des opportunités pour les capitalistes français, mais aussi des risques liés à l'incertitude politique. Donc ce traité garantit, je cite, « le traitement juste et équitable des investisseurs de chaque pays » et, je cite encore, la protection et la sécurité de leurs avoirs. Il interdit notamment d'exproprier et de nationaliser ces avoirs, sauf mesures d'utilité publique non discriminatoires qui n'iraient pas à l'encontre d'assurances ou de promesses explicites de la part des pouvoirs publics. En clair, si le président promet un truc aux 20h de TF1, ça peut nous engager. Le 16 octobre dernier, le site spécialisé IA Reporter a révélé que l'investisseur russe, en plus du recours administratif, a lancé un contentieux arbitral contre la France en juin 2021 dans le cadre de ce traité. Donc en fait, c'est une justice parallèle qui est rendue non pas par un vrai tribunal, mais par un tribunal arbitral, c'est-à-dire un groupe d'experts, d'avocats d'affaires, qui jugent uniquement sur la base du traité. Et donc en vertu de ce
comme
traité...
Comme pour Bernard Tapie, quoi.
Voilà, exactement.
Ça a bien marché.
Donc en vertu de ce traité, l'entreprise réclame une compensation financière de 4,5 milliards de dollars, alors qu'elle n'a investi que 500 millions pour l'instant, et que la mine n'a absolument rien produit, non, enfin rien n'a commencé.
C'est qui, la mine ?
En fait, au titre du traité, ce qu'elle réclame, ce sont les profits dont elle a été privée. Alors le seul moyen de s'en sortir, c'est de négocier un arrangement financier. C'est ce qu'avait fait en 2008 Nicolas Sarkozy, très discrètement, après l'abandon d'un projet minier, encore en Guyane. Cette fois-ci, c'était la compagnie canadienne Yamgold à Kao, en Guyane. Et on avait subi un chantage similaire, et ça s'est soldé par un arrangement politique et financier dont les détails sont restés secrets.
C'est ce qu'on appelle le cacao.
Merci. Cette mésaventure est hélas très courante. Depuis la fin des années 90, plusieurs dizaines de contentieux arbitraux fondés sur des traités d'investissement ont été initiés par des sociétés minières qui réclament à chaque fois des dommages parce qu'elles s'estiment injustement lésées par une décision publique qui annule ou réduit les profits escomptés. En général, elles réclament quelques milliards de dollars, si bien que les États préfèrent négocier à l'amiable ou sont même dissuadés à l'avance de prendre des mesures dérangeantes. C'est quelque chose qui était arrivé à Nicolas Hulot, qui avait adouci une loi avant d'avoir des problèmes. À l'occasion de la COP26, ATTAC a opportunément rappelé que 5 entreprises du secteur des énergies fossiles poursuivent de la même manière des gouvernements pour leur action contre le réchauffement climatique. Par exemple, RWE et Uniper poursuivent les Pays-Bas suite à la décision de sortir progressivement du charbon. Rockhopper poursuit l'Italie suite à l'interdiction de réaliser des forages pétroliers en mer près des côtes. Ascent Resources poursuit la Slovénie, qui a exigé une étude d'impact environnemental avant toute exploitation d'hydrocarbures de schiste. Et enfin, TC Energy poursuit les États-Unis suite à la décision de Biden de ne pas construire l'oléoduc Keystone. À elle seule, ces 5 affaires représentent plus de 18 milliards de dollars de compensation qui sont exigées par ces entreprises. Pour vous donner une idée, c'est l'équivalent de la totalité de l'aide annuelle pour le climat que les pays riches versent aux pays en développement.
Ne versent pas, plutôt.
De ce qu'elles versent réellement. Là, on parle vraiment de ce qu'elles versent.
Ah.
Donc, c'est pas grand-chose, en fait. Aujourd'hui, la COP26 s'achève et tout le monde, il est vert, tout le monde, il est gentil. On a juste oublié un petit détail, c'est que les règles du jeu sont toujours fixées par les capitalistes et que le capitalisme vert, ça n'existe pas.
Et voilà la fin du travail de Gaël. Donc on va écouter une chanson, plutôt une musique du Julian Diane Quintet qui s'appelle « And Working ».
Fréquence Paris Pluriel, l'émission Mode d'emploi, l'émission des chômeurs et des précaires, avec ce soir des journalistes du PIAF et des membres de ATTAC.
Et notre invité est Yacine Iclef. Bonjour Yacine.
Bonjour.
Alors donc tu es syndiqué à Sud Éducation Paris, dans la section de Sorbonne Université, c'est-à-dire sur le campus de Jussieu.
Oui.
Et ces derniers mois, il y a eu une lutte sociale, et vous allez voir à la fin, écoutez jusqu'au bout, c'est une lutte victorieuse, ça n'arrive pas tous les jours, entre les techniciens de surface d'une entreprise qui s'appelle Arc-en-Ciel, qui est un sous-traitant et qui sous-traite le ménage, le nettoyage, l'entretien des locaux d'une énorme faculté.
C'est une société gay.
Une société gay, non, je
crois. Bah oui, Arc-en-Ciel.
Arc-en-Ciel, on pourrait imaginer. Non, je ne voudrais même pas imaginer ce qu'ils ont voulu mettre derrière ce mot, mais ce n'est pas ça, c'est sûr. Alors, est-ce que tu peux nous raconter un peu cette histoire avec un début de lutte et puis une fin heureuse, on va voir à la fin.
Oui, tout à fait. Donc, c'est une grève qui a éclaté juste à la rentrée universitaire, donc au début du mois de septembre. Donc, le campus de Jussieu, c'est un campus qui est assez immense, quoi. Il doit faire dans les 300 mètres sur 300 mètres à vue de nez, avec 5 étages, plus une tour centrale de 24 étages. C'est un gros bâtiment, il y a environ 130 salariés qui s'occupent du nettoyage. Et là, début septembre, ils se sont mis en grève. Alors, sur plusieurs revendications, il y avait un point super important pour eux, c'est que la boîte leur annonçait un fractionnement de leur journée de travail. Donc, actuellement, puisque ça, c'est pas passé finalement, la grève a gagné, actuellement, les salariés travaillent de 6h à 13h. Ça, c'est une équipe, et puis une autre équipe de 13h à 20h. Et en fait, la boîte, elle leur a annoncé pendant l'été, maintenant, chaque salarié va bosser 7 heures dans la journée, mais ça pourra être 3 heures le matin, puis 5 heures de trou, et après 4 heures, quoi. Donc c'est vraiment pas du tout passé. Et le contexte, c'est aussi qu'ils avaient eu une brutale montée de la charge de travail, parce que la boîte venait de reprendre le marché de mémoire au mois de février. Et assez vite, en fait, ils n'ont pas renouvelé une trentaine de CDD. Donc, le boulot est toujours le même. Donc, d'un seul coup, la charge de travail de ceux qui restaient avait brutalement augmenté, quoi. Donc, ils se trouvaient, ils se trouvent d'ailleurs toujours, hein, quand même, sous une grosse pression de charge de travail comme ça. Donc ça, c'était les points. Y avait aussi les heures sup pas payées. Enfin, en fait, un contexte global d'une boîte vraiment aux pratiques de truand, quoi, qui fait travailler une partie des gens sans contrat, qui leur paye pas leurs heures sup ou qui les majore pas, ou qui respectent pas les horaires inscrits dans leur contrat. Donc ça, c'est un peu ce qui a fait démarrer la grève. Et puis ce que je peux faire, c'est vous raconter un petit peu c'est la grève a duré 8 jours, en fait, vous raconter un peu chaque jour un peu comment ça se passait, quoi. Donc le matin, il y avait rendez-vous à 6h pour les grévistes et leur soutien. Donc sur le parvis de Jussieu, on se retrouvait, puis on faisait un petit peu le point, savoir où en était le mouvement et tout. La grève était mise au vote, et puis une fois que c'était voté, quoi, de reconduire, on allait prendre quand même un petit café au local syndical. Voilà. On attaquait. Donc, ce qui était vraiment bien, enfin, moi, ce qui m'a plu quand j'ai participé en tant que soutien, c'est que c'était vraiment une grève vivante, quoi. C'est pas une grève où chacun reste chez soi, c'était vraiment une grève où on allait faire du bruit, se faire connaître, se faire savoir des collègues, et puis de l'administration, quoi.
Parce que ce qu'il faut marquer, c'est que sur un campus universitaire, il y a plusieurs types de boulot, quoi. Il y a des gens qui viennent enseigner, des gens qui font de la recherche, de l'administratif, des techniciens de surface, des techniciens de laboratoire. Il y a plein de types de personnel, ouais, qui n'ont pas toujours l'occasion de discuter entre eux.
Ouais, exactement. Ouais. Et du coup, on se postait à l'entrée. Il y avait un piquet de grève posté à l'entrée. à partir de 8 heures environ, quand le gros des étudiants et puis des personnels entrent dans le campus. Et là, on avait des percussions, enfin les grévistes avaient chacun des percussions improvisées, des bouteilles, des bidons, tout ce qui peut faire un peu office de percussion, quoi. Et moi j'avais ramené ma derbouka aussi de temps en temps. Et puis, un gros boucan comme ça avec des slogans du style arc-en-ciel esclavagiste, la fac complice, ou arc-en-ciel négocié ou dégagé. Voilà. Et puis, au bout d'un moment, donc on restait pas statique, on bougeait un peu sur Jussieu. Alors ce qui est sympa à Jussieu, pour ceux qui connaissent pas, c'est qu'il y a, enfin sympa façon de parler quoi. C'est une grande dalle. Et puis les bâtiments sont sur pilotis au-dessus de cette dalle, donc c'est des pilotis qui font, je sais pas, ils sont assez hauts quand même, ça fait l'équivalent de 2 étages quasiment, ouais, je sais pas, 3-4 mètres quoi. Et donc en fait, quand vous mettez en dessous et vous tapez sur des bidons, ça s'entend très 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 bien quoi. À tel point que les dirigeants de l'université, ils sont venus une ou deux fois vers nous pour nous dire, ouais, c'est bien les percussions, mais ce serait possible de le faire à des horaires précis parce que ça dérange quand même un peu. Donc, on a examiné la chose, mais finalement, on a continué comme ça, quoi. Et donc, on tournait dans le campus et puis on allait dans les amphis, en fait, dans les services et tout. Alors, dans les amphis, on était toujours super, super bien accueillis. Les grévistes étaient acclamés, en fait, par les étudiants de rares exceptions près, hein. Il y a quand même des exceptions à ça, mais globalement vraiment un super accueil quoi. En milieu de journée on allait manger on faisait l'AG à la jonction des deux équipes, donc de l'équipe du matin et de l'équipe d'après-midi. Puis l'après-midi ça reprenait comme ça et à la fin on rangeait un peu tout et puis on se disait à demain matin, quoi. Voilà. Donc ça, c'est un peu une journée comme ça, aux côtés des grévistes. C'est comme ça que ça se passait. Maintenant, je peux peut-être vous parler un peu du déroulement des négociations sur les 8 jours. Alors, en fait, on a découvert des trucs assez dingues, en fait, avec cette société de sous-traitance. Mais, en parlant avec les camarades, ils nous disaient que c'était assez courant dans ce milieu. Donc, quand la grève a éclaté, la direction a pas daigné répondre. La direction de la boîte sous-traitante a pas daigné répondre aux demandes de négociation et tout pendant 2 jours. Finalement, ils ont fini par se déplacer. Donc, ils sont venus négocier sur le campus avec les grévistes. Et puis, au sortir de la discussion, voilà, ils ont accepté un certain nombre de points pour sortir de la grève. Et puis, ils font pas d'écrit. Donc, les grévistes, ils disent, on voudrait un écrit pour spécifier, les points sur lesquels on s'est mis d'accord et tout. Donc, ils disent, OK, ils s'enferment dans une pièce pendant une demi-heure et puis ils ressortent avec un papier où il y a écrit, la société arc-en-ciel s'engage à respecter tout ce qui a été discuté lors de la réunion. Point. Voilà, donc en fait, ils se moquent complètement du monde. Et en fait, c'est pas passé, donc la grève a continué. Et pour toute la suite des négociations, en fait, la direction de la boîte sous-traitante ne se déplaçait plus à la fac. À la place, ils envoyaient des fondés de pouvoir en la personne de syndicalistes maison, en fait. Donc, la boîte, elle a à sa botte, en interne, un certain nombre de syndicats, entre guillemets, qui relayent sa parole, en fait, qui sont ses sbires, quoi. Et donc, en fait, c'est eux qui venaient négocier au nom de la boîte. Ils venaient du siège de la boîte qui est à Champigny-sur-Marne, Patrolin de Paris. Donc ils venaient, et la boîte leur avait dit jusqu'où ils pouvaient aller dans la négociation, et puis ils étaient vraiment les négociateurs de l'entreprise, quoi. Ça faisait tellement bizarre que même les responsables de l'université, ils y comprenaient rien. Ils demandaient au syndicat de la fac de leur expliquer, mais qu'est-ce que c'est que ça, enfin, c'est qui les interlocuteurs là ? Ils étaient eux-mêmes paumés, quoi. Et franchement, je pense qu'ils étaient de bonne foi, ils étaient paumés, quoi. Et voilà, ça s'est passé comme ça, donc avec des allers-retours, etc. Au bout d'un moment, l'université a quand même fait pression, c'est elle qui est donneuse d'ordre quand même. Elle a commencé à faire pression parce que on a fait un rassemblement de soutien qui a été médiatisé avec des articles dans l'IB, l'Humanité, etc. Et on a eu des éminentes figures politiques qui sont venues sur le campus pour soutenir les grévistes. La sauce montait.
Sur l'administration, pas forcément la tête de l'université, mais les cadres administratifs, les collègues aussi dans les couloirs qui étaient peut-être très loin de discuter peut-être tous les jours avec les techniciens de surface, mais qui sont préoccupés. Il y a eu d'énormes quantités d'écrits de d'organisations universitaires qui étaient prêts à soutenir le débat.
Oui, ça c'est vrai que il y a eu ce soutien là. Alors c'est vrai que on aurait pu espérer qu'il y ait un peu plus de collègues qui viennent rester auprès du piquet et tout. Ça on n'a pas trop eu, mais par contre des dons à la caisse de grève étaient massifs, quoi. Des collègues qui donnaient tous les jours. Et puis, comme tu dis, les laboratoires ou des UFR, c'est-à-dire des départements de différentes disciplines qui prenaient position par des petites motions, des textes de motions en disant voilà, on soutient pleinement la grève des salariés d'Arc-en-Ciel, on est scandalisé de ce qu'on apprend sur leurs conditions de travail. En plus, il y avait déjà eu des précédents il y a quelques années, par exemple. En fait, c'était pas la même boîte sous-traitante, c'était une autre sous-traitante, mais en fait, c'est les mêmes salariés. Il y avait une salariée qui avait manipulé sans le savoir des matériaux radioactifs dans l'université. Du coup, cette salariée, elle s'est exposée à des produits toxiques sans le savoir. Et puis en plus, elle les a jetés dans une poubelle ordinaire, donc on savait pas trop où ça avait atterri, quoi. Donc il y a de temps en temps comme ça. On peut pas dire qu'on ignore non plus ce que ça fait la sous-traitance, mais
et donc si on revient au fait et au déroulé, ouais. Il y a eu à la fin une victoire.
Voilà, donc sur la fin. C'est-à-dire au bout de deux semaines, quoi, en fait, 8 jours ouvrables, parce que ça avait commencé un mardi de mémoire, ouais. Donc, on avait fait 4 jours, ils ont fait 4 jours de grève la première semaine, et puis encore 4 jours la semaine suivante. Finalement, après moult aller-retour, les négociations ont abouti, sur un protocole d'accord. Faut dire que en fait les grévistes et puis nous à leur soutien on maintenait la pression en permanence. Donc, comme je disais tout à l'heure, au bout de 2-3 jours de grève, on avait fait un gros rassemblement de soutien. Et puis on essayait d'annoncer 3-4 jours à l'avance des actions pour que tout le monde sache que les grévistes lâchent pas, qu'ils se projettent dans la durée et tout, quoi. Et on avait même prévu pour la semaine suivante une manif à Champigny, on avait déjà déposé le parcours et tout ça, quoi. Et du coup, la boîte était au courant, les RG nous appelaient tous les 2 jours pour dire c'est bon, là, vous annulez la manif vu que le protocole d'accord va être signé. Nous, on disait non, les grévistes nous disent qu'ils veulent continuer, donc on maintient la manif. Enfin voilà, c'était plein de trucs comme ça pour bien montrer que les grévistes lâchaient pas et que nous, on était toujours avec eux, quoi. Donc ça s'est terminé. Sur un protocole d'accord où en fait les grévistes ont obtenu satisfaction sur quasiment toutes leurs revendications, c'est-à-dire paiement des heures sup, pas de fractionnement des journées de travail. Il y avait aussi une clause de mobilité qui était inscrite sur tous leurs contrats, qui permettait à la boîte de les bouger à loisir sur toute la région parisienne. Donc là, dans le protocole d'accord, la boîte s'engage à ne pas appliquer cette clause. Il y avait également la régularisation des contrats de travail pour ceux qui n'en avaient pas, un remplacement des absents, et puis euh, La fourniture de produits d'entretien non allergisants, parce que la boîte, elle allait tout, à l'économie sur tout, quoi, y compris sur les produits. Et même le paiement de 50% de leurs jours de grève. Donc un truc vraiment chouette, c'est que à la fin de ce mouvement, quand ils ont décidé d'arrêter la grève, et ben avec les 50% payés par la boîte et la caisse de grève, en fait les grévistes n'ont pas perdu de fric. Ils ont même un petit peu gagné, je crois. Donc voilà, c'est quand même encourageant, quoi. Donc nous, les militants de la section Sud Éducation et puis les autres syndicats, enfin principalement la CGT en fait, qui animait essentiellement le mouvement de grève. Je parle de la CGT. On était vraiment vraiment contents, et puis déjà d'avoir lutté comme ça dans une ambiance vraiment joyeuse, vivante, et puis de voir qu'à la fin on obtient satisfaction, quoi.
Et bien pour montrer cette joie, on n'a pas pu résister. On va écouter Maldon de Zouk Machine. Reprend le cours de notre interview avec Yacine Iklef, qui est donc syndiqué à Sud Éducation, donc un syndicat d'enseignement, mais qui, lors de la grève qu'il vient de nous raconter, était un des soutiens vifs avec, entre autres, la section CGT de Jussieu, de ce mouvement de grève au sein de l'entreprise Arc-en-Ciel. Alors, cette entreprise Arc-en-Ciel, c'est donc ce qu'on appelle un sous-traitant. Et ouais. Tu as envie de nous parler un peu de cette notion de sous-traitance, avec, par exemple, même un petit retour. Qu'est-ce que ça veut dire pour un salarié de Jussieu, un salarié pas de Jussieu, justement, un salarié qui travaille à Jussieu et qui est sous-traitant, ça veut dire avoir un patron, plusieurs patrons ?
Le salarié, en l'occurrence, le salarié de nettoyage, il est salarié en CDD ou en CDI auprès d'une société privée. Donc là, c'est la société Arc-en-Ciel. C'est une société dans plusieurs milliers de salariés qui intervient sur différents sites. Et Jussieu, pour cette société, c'est ce qu'il appelle un chantier, quoi. C'est un des marchés qu'il a remporté en répondant à un appel d'offres.
Et vu de l'envers, pour Jussieu, il y a des gens qui étaient là avant même que l'entreprise Arc-en-Ciel arrive.
Ouais, en fait, c'est même l'écrasante majorité de ces salariés. C'est des gens qui, au fur et à mesure que le contrat de nettoyage est remis en jeu dans un appel d'offres, à chaque fois qu'on change d'entreprise, on garde les mêmes salariés, y compris les chefs d'équipe, quoi. Donc, en fait, tout ce qui change pour eux, c'est l'intermédiaire, enfin le sous-traitant qui est formellement son, enfin qui est légalement son employeur, quoi. Et en général, quand on passe d'une boîte à l'autre, ça se dégrade parce que les universités, enfin les administrations en général, mais elles ont tendance à choisir le moins 10 ans, quoi.
Et donc, finalement, l'employé pendant 15 ans pour faire du ménage dans des locaux d'État, hein, des locaux de la fonction publique, se retrouve avec un patron intermédiaire, c'est bien ça la sous-traitance, alors qu'il fait une mission essentielle de service public.
Bah oui, tout à fait. Sans ces salariés, on a bien vu d'ailleurs pendant la grève, ça c'était un truc intéressant. On voit tout de suite que la fac est dégueulasse, quoi. Il y a des poussières, des papiers partout. D'ailleurs, c'est ça qui a fait pression aussi pour que la boîte lâche, quoi. C'est que ça se voit tout de suite que leur boulot est utile. En négatif, ouais, dès qu'ils arrêtent de bosser, ça se voit, quoi.
Et on voit bien où la grève a été faite. Elle n'a pas été faite dans les locaux du patron. Elle a été faite dans le lieu de travail.
Oui, c'est ça. C'est une situation un peu... presque absurde, quoi. C'est-à-dire que... En fait, oui, c'est ça. Les gens avec qui tu travailles tous les jours, c'est pas légalement tes collègues, quoi. Les gens qui prennent les décisions au niveau de l'université, ce sont pas tes employeurs. C'est des gens qui utilisent un paravent, en fait.
Et tu posais la question, et je te la repose en retour, là, mais à quoi ça sert finalement la sous-traitance ?
Ouais, bah, pour moi, c'est assez clair. En fait, ce qui est sous-traité, c'est avant tout le sale boulot, quoi, de réduire les coûts. L'université, elle se doit de respecter un minimum la loi, la légalité, même si. En étant syndiqué dans une université, on voit assez régulièrement que cette législation est bafouée, même pour des agents, même envers des agents de la fonction publique, quoi. Mais là, je veux dire, c'est encore pire parce que, si des irrégularités sont commises, et elles le sont clairement, hein, par des boîtes comme Arc-en-Ciel, les personnes qui dirigent l'université sont pas du tout responsables légalement, quoi. Enfin, pour nous, elles sont très responsables moralement.
Elles sont responsables au moment de la décision de prendre une entreprise déjà véreuse. Et elles le sont au quotidien aussi, tu penses ?
C'est aussi... la sous-traitance, ça crée aussi des situations où, l'administration, si elle le voulait... ne se donne même plus les moyens de s'assurer que le boulot est fait correctement. Ou plus précisément, que les salariés, on leur donne les moyens de faire le boulot correctement. Par exemple, quand vous demandez à des salariés de nettoyer en urgence le campus pendant l'été pour préparer la rentrée universitaire, et que juste avant, vous avez virer 30 personnes sur les 160 qu'il y avait avant, forcément le boulot n'est pas fait pareil. Il y a des trucs qui sont faits à la va-vite. Donc même la qualité du travail n'est pas possible d'obtenir un truc correct, quoi.
Et tu as fait une autre anecdote qui est très marquante. Alors on avait dit qu'on reviendrait dessus, sans trop citer les noms. Mais t'as parlé de ces drôles de syndicats maison.
Ouais, voilà. Alors ça, c'était, comme je le disais tout à l'heure, c'était quand même un des aspects les plus étonnants en participant à cette lutte. C'est ces fameux syndicats maison. Je disais tout à l'heure que pendant les négociations, ils servaient de fondé de pouvoir de la boîte. D'ailleurs, par raccourci, on les appelait les délégués d'Arc-en-Ciel, quoi. Parce qu'ils sont délégués syndicaux, c'est ça qu'ils font. Et en fait, ouais, tu dis pratique véreuse, mais c'est vraiment, c'est le mot est même faible, quoi, parce que en fait, ils sont connus pour racketter les salariés en échange d'horaires de travail à peu près convenables. Ils demandent de l'argent aux salariés. Ils venaient pendant le conflit. Ils venaient s'incruster dans les discussions et ils allaient même jusqu'à provoquer des bagarres entre les grévistes quand il y avait des moments de tension. Dès qu'ils voyaient la moindre tension, ils en profitaient pour surenchérir et rajouter de l'huile sur le feu. Voilà. Il y a aussi c'est aussi un système où chaque syndicat, c'est une sorte de petite boutique qui roule pour telle ou telle société. Donc il y a des grandes sociétés qui interviennent dans le secteur et chacune a ses poulains parmi les syndicats qui œuvrent dans ce secteur. Et du coup, nous on a vu par exemple des gens comme ça se pointer dans les AG et puis essayer de pousser les revendications plus haut pour nuire à la société Arc-en-Ciel, parce que ces syndicalistes maisons-là, ils étaient plutôt affiliés à une autre maison. Donc pour faire perdre le marché, le prochain marché à Arc-en-Ciel, ils poussent, tu vois, un peu le genre de truc qu'on a vu.
C'est ce qu'on appelle le dialogue social.
Ouais, c'était vraiment, c'est une forme assez dingue du mouvement social. Et un truc en fait aussi qui moi m'a particulièrement frappé, c'est que j'essaierai de terminer là-dessus, mais c'est quand même important de dire quoi, c'est que quand même la majorité des grévistes et surtout au fur et à mesure que le mouvement avançait, ils voyaient bien ils n'étaient pas dupes de ces syndicats. Sauf qu'il y en avait aussi une partie qui continuait à les soutenir. Et ça posait vraiment question, quoi. Est-ce qu'ils étaient liés déjà par des relations malsaines de raquettes et autres? Mais du coup, ils en viennent à soutenir des chefs d'équipe ou bien des pseudo-syndicats qui leur nuisent, quoi.
On va s'arrêter avec ce drôle de goût dans la bouche, quoi. Ouais. Et là, on va écouter quelque chose qui reprend la chronique de départ de Jean-Marc, qui nous parlait de la Ve République, mais avec un peu plus d'emphase, parce que ça s'appelle « Heure et malheur du présidentiel à la française ».
Présidentialisme.
Présidentialisme.
Donc, en regardant l'immense et quelque peu monstrueuse croix de Lorraine de 16 mètres qui orne l'entrée de la crypte du Mont-Valérien, lors de l'inhumation d'Hubert Germain, dans une cérémonie à la fois sobre, discrète et évitant soigneusement la pompe, je n'ai pas pu m'empêcher de penser à quel point est vraie la phrase de Marx selon laquelle l'histoire se produit toujours deux fois, la première fois en tragédie, la seconde en farce. De Gaulle, auréolé de son rôle pendant la guerre, était un président qui incarnait une certaine grandeur dans l'engagement politique. De fait, quand il préside l'inauguration du monument en 1960, rien ne paraît grotesque ou pompeux car le souvenir de l'occupation est encore bien présent. La violence des troupes allemandes marque encore les esprits, comme la honte de la défaite et le déshonneur de Vichy. 60 ans après, quand Macron se prend pour De Gaulle, il n'est évidemment pas très crédible et ses larmes apparaissent pour ce qu'elles sont, des larmes de crocodile. On joue une comédie dont on connaît tous les ressorts. Le président, ni de droite ni de gauche, mais quand même bien à droite, au-dessus des partis, mais qui place ses hommes à tous les postes importants, garant du maintien des institutions démocratiques, mais autoritaire dans la prise de décision à laquelle il associe deux ou trois conseillers et éventuellement un ministre. Bref, comme les présidents qui l'ont précédé, Macron joue un rôle écrit par et pour un comédien d'exception, De Gaulle. En 1946, à Bayeux, De Gaulle a fixé les grandes lignes de ce qu'il considérait comme un bon régime pour la France. Un président au-dessus des partis qui garantit l'unité nationale et la continuité de l'État, au-delà des majorités parlementaires fragiles qui ont caractérisé la Troisième République, un parlement encadré, lesté d'un Sénat naturellement conservateur. Quand il fait ce discours, De Gaulle s'habille en tragédien, évoque le passé alors très récent de la guerre, de l'effondrement de la Troisième République, pour justifier qu'on donne à lui, l'homme providentiel, un pouvoir exceptionnel. Il invente ce jour-là un numéro qu'il rejouera jusqu'à sa mort. En 1946, ce one-man show politique ne fonctionne pas vraiment. On ne vient pas de sortir de Vichy et de la voix chevrotante de Pétain qui a fait le don de sa personne à la France pour mettre un autre militaire mégalomane au pouvoir. Par un de ces renversements extraordinaires dont l'histoire a le secret, à cause de la guerre d'Algérie et d'un réseautage assez habile, De Gaulle a réussi à faire de la petite pièce de théâtre de Bayeux la doctrine officielle de la Constitution de la République française, la doctrine officielle de la République française sous le nom de Constitution de la Ve République. Pour personnaliser un peu plus son pouvoir et ce rapport d'homme à homme qu'il a avec la France, il a même eu l'idée étrange d'ajouter quelques années après l'élection du président au suffrage universel. Cela aurait dû faire hurler. En 1962, le dernier et seul président de la République élu au suffrage universel était Louis-Napoléon Bonaparte, le neveu de son oncle et l'auteur d'un coup d'État parfaitement réussi qui lui a permis de conserver le pouvoir pendant près de 20 ans, jusqu'à une cinglante défaite face aux Prussiens. Cela aurait dû faire hurler car en France, avant De Gaulle, le règne des hommes providentiels finit mal en général. Bonaparte à Sainte-Hélène, son neveu, à Londres en exil, Pétain à l'île de Ré, le général Boulanger qui avait été tenté de s'essayer au rôle a dû s'enfuir en Belgique et a fini par se suicider avant même de réussir à accéder au pouvoir. De Gaulle a réussi un tour de force. Il a réussi à inscrire l'homme providentiel dans le fonctionnement normal d'un régime à peu près démocratique. Pour parler dans le langage du sociologue Max Weber, il a routinisé le charisme du chef. Le chef extraordinaire doit se faire élire et réélire pour pouvoir incarner le rôle du chef extraordinaire. S'il a le soutien renouvelé du peuple, il peut alors disposer légitimement d'un pouvoir extraordinaire, faire et défaire les gouvernements, accepter ou refuser les lois, écarter un parlement qui s'aligne pas sur sa ligne, déclarer la guerre ou faire la paix, décider seul s'il le souhaite, s'il y a un état d'urgence. Emmanuel Macron, dont chacun pourra mesurer le charisme personnel à l'aune de celui du général qui l'a précédé, est hérité de cet extraordinaire pouvoir. Comme les 6 autres successeurs du général, il a essayé d'adapter le rôle à sa personnalité et aux circonstances si particulières de son règne. Mais il a tout de suite assumé le caractère antidémocratique de la posture présidentielle. Alors que Sarkozy était cyniquement le président des riches, que Hollande prétendait être le président normal, On se demande encore ce que ça peut bien vouloir dire. Macron a tout de suite été jupitérien. Quand il a traversé en majesté la cour du Louvre, seul, le soir de son élection, on a compris. Lui, il n'était pas là pour partager le pouvoir et faire des compromis. Lui, sa spécialité, ça serait les longs monologues et les mises en scène pompeuses. Macron est l'héritier fidèle de De Gaulle. Pas dans ses options de politique économique. Il n'est pas pour la planification économique. Il est atlantiste, européiste, libre-échangiste. Il est un produit de son époque, de ce que l'on apprend à Sciences Po et à l'ENA. Néolibéralisme, nouveau management public, ouverture économique et culte de la croissance par l'innovation. Là où De Gaulle rêvait de participation, de plans, d'infrastructures géantes, des entreprises publiques, Macron, lui, veut édifier une start-up nation qui talk English fluently et où chacun emprunte les autoroutes de la communication. Non, de ce côté-là, Macron est vendu aux requins, comme on disait en 67. Par contre, c'est un héritier fidèle de l'esprit autoritaire et mégalo du vieux général. Il assume le personnage qu'il joue. Il est président 24 heures sur 24 et sans distance, sans second degré. Il faut dire qu'en plus de la constitution de 58, il a hérité des tripatouillages de Chirac et de Jospin et d'une légère tendance des médias à surpersonnaliser la politique. En 2017, avec un programme bidouillé à la dernière minute, un parti inventé à partir de rien, avec des cadres recrutés comme on recrute des commerciaux dans des start-up ambitieuses, Macron a réussi à avoir la majorité absolue à l'Assemblée. De manière cohérente, les électeurs qui ont bien appris la leçon gaullienne abondamment répétée par des médias complaisants ont considéré que le président élu devait obtenir une majorité pour pouvoir opérer les miracles qu'il est dorénavant seul habilité à réaliser. Cette culture médiatique de l'homme politique providentiel transforme chaque élection présidentielle en farce tragique. Chaque candidat est sommé d'endosser les habits de mon général et d'expliquer doctement, mais en maîtrisant l'art rhétorique de la punchline, le type de dictature personnelle, mais néanmoins démocratique et vertueuse, qu'il entend mettre en place. Cette culture qui s'intéresse aux détails du langage et de la tenue en oubliant toute perspective réellement politique dépolitise et droitise. Elle dépolitise car plus on s'attarde sur les habits neufs de l'apprenti président, plus on oublie que chaque question politique mérite qu'on s'y intéresse pour elle-même, autrement que comme un enjeu électoral. Elle droitise car, bien sûr, la croyance dans l'existence d'un homme providentiel qui a un rapport personnel au destin de la France est un lieu commun de la droite, voire de l'extrême droite, et plutôt un problème à gauche, sauf quand on est stalinien, évidemment. Et avec les numéros dramatiques dramatiquement surjoués des alternatives autoproclamées au président en place, les Zemmour, les Le Pen et même Mélenchon, d'outrance en outrance, chacun d'entre eux renforce la légitimité du président Macron, dont le caractère jupitérien devient de plus en plus normal.
Magistral. Et on termine l'émission comme ça. On remercie notre invité, Yacine Iclef, d'être venu.
Merci de m'avoir écouté si longuement.
Mais c'était très intéressant. Vraiment. On remercie Gaël et Alex et Jean-Marc aux chroniques. Et puis c'était Ludo à la technique, à qui on fait coucou de très près aujourd'hui dans les studios en plein travaux. Et on écoute pour terminer Kezia Jones, Where's Life?